sur la Gethsémanie, qui veut dire pressoir à huile, puisque nous sommes sur le mont des Oliviers, donc il est bien normal de faire de l'huile avec les olives, mais nous avions dit également qu'il y avait une signification spirituelle à ce nom, puisque le Christ rentre dans son agonie, et donc lui qui est le Christ, lui qui est loin, celui qui a reçu l'onction, eh bien il va être pressé, effectivement, pressé dans son corps, et déjà au jardin des Oliviers, pressé dans son âme. Donc il est arrivé avec les onze, puisque Judas a déjà quitté le Cénacle. Il a laissé huit apôtres un peu plus loin, et il a pris près de lui, à la distance d'un jet de Pierre, Jacques et Jean. Et le Christ s'est mis en prière, et comme on disait, c'est la seule prière dans l'évangile de saint Marc que nous connaissions vraiment du Christ, où nous savons vraiment ce que le Christ a dit dans sa prière. Lorsque saint Marc mentionne que le Christ va dans la montagne, qu'il s'isole pour prier, il ne donne pas le contenu, les mots de cette prière, mais là, il nous donne ses mots. Donc cette prière, elle est une prière intense, elle est une prière douloureuse, elle est cette prière par laquelle, eh bien, le Christ, dans sa volonté humaine, rejoint la volonté divine, la volonté de son Père, mais aussi sa volonté en tant que Fils, la volonté de l'Esprit-Saint, puisque le Père, le Fils et l'Esprit-Saint n'ont qu'une même volonté, qui est de sauver les hommes, et de les sauver à travers cette passion douloureuse, évidemment extrêmement mystérieuse, pourquoi le Seigneur a choisi ce moyen. Sans doute, le Christ nous donne une clé, quoi. Il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il a voulu nous montrer ainsi, eh bien, jusqu'où il était prêt à aller pour nous, sachant que la douleur du Seigneur lui vient aussi, comme on disait il y a un mois, de ce qu'il voit tous nos péchés, tous les péchés de l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier. Il les voit dans toute leur horreur, il les voit dans toute leur noirceur, il les voit pleinement en tant que Dieu, dans cette âme si pure. Donc c'est la vue de ses péchés a un retentissement encore plus grand, encore plus terrible, mais il les voit tous pour les prendre tous. Donc comme j'avais dit, cette phrase du père André de sa vie qui est très bouleversante, l'âme du Christ est devenue le déversoir d'égout des péchés du monde entier. Voilà, comme tous les péchés du monde entier se déversent dans son âme, comme un déversoir, comme un gigantesque collecteur d'égout. Donc il faut bien comprendre que ce qui trouble le Seigneur, ce qui lui fait une peine infinie, ce n'est pas l'épreuve de la mort en tant que telle, parce que le Christ sait, de science divine, qu'il va ressusciter, donc c'est pas comme pour nous, où il y a toujours un trouble devant la mort, devant qui nous demande le plus grand acte de foi de notre vie, c'est-à-dire le passage dans l'au-delà, dans ce monde de Dieu dont nous n'avons pas l'expérience. Évidemment, le Christ, il a l'expérience du monde de Dieu, puisqu'il est Dieu. Donc, ce qui le trouble infiniment, ce n'est pas tellement la perspective de mourir, contrairement à nous, quand nous arriverons à notre agonie, mais c'est surtout voilà, cette vision des péchés qu'il prend dans toute leur noirceur sur lui, pour que justement, eh bien, dans cet amour infini dont il va témoigner en donnant sa vie, eh bien, il vienne apporter une réponse finalement infinie à tous nos péchés, qui sont tous des trahisons de l'amour. Donc il vient répondre aux trahisons de l'amour par un plus grand amour, et c'est sans doute tout le sens de cette passion qui commence à Gethsémani. On peut ajouter bien sûr aussi que le Christ, eh bien, il a pris un corps d'homme, donc il l'assume jusqu'au bout, dans ses joies comme dans ses peines. On peut dire aussi qu'à travers sa passion, il se fait solidaire de tous ceux qui souffrent à travers le monde entier, à travers l'histoire. Et donc, pas un être qui souffre ne peut désormais dire qu'il est seul dans sa souffrance, parce que le Christ, eh bien, l'a vu et l'a rejoint, justement, dans sa passion. Oui. Allez-y.
Avec le péché originel, en fait, il y a la perte des dons
préternatures.
Et j'ai vu qu'il n'avait pas le péché originel. Mmh.
Pourquoi souffre-t-il en fait, ouais. Ben, c'est-à-dire que, effectivement, donc, Adam et Ève ont été créés dans le paradis terrestre avec un état, ce qu'on appelle de nature intègre, c'est-à-dire une nature humaine très pure, qui avait, bien sûr, qui était unie à Dieu, donc qui avait une grâce, donc un don surnaturel d'union à Dieu, d'amitié avec Dieu, de sainteté originelle, et à ce don, Dieu avait ajouté d'autres dons, qu'on appelle les dons préternaturels, qui ne sont pas des dons spécifiquement surnaturels, qui ne mettent pas directement en rapport avec Dieu, mais qui sont quand même des dons au-dessus de la nature normale, telle qu'elle aurait dû être vécue par Adam et Ève, et donc c'est notamment le fait d'être dispensé de l'ignorance, de la souffrance et de la mort. Mais justement, le Christ n'assume pas la nature d'Adam et Ève, il assume la nature humaine telle qu'elle nous est donnée après le péché originel, puisqu'il se fait notre frère à un moment du temps où le péché originel a déjà frappé, et donc il assume cette nature. Alors c'est sûr qu'en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, il aurait très bien pu choisir d'assumer une nature intègre qui soit dispensée de la souffrance et de la mort, puisqu'il n'a aucune accointance avec le péché, et avec ni le péché originel, ni avec le péché personnel. Mais justement, pour se faire notre frère au plus près, eh bien, comme dit saint Paul, il a voulu prendre une nature semblable en tout à la nôtre, excepté le péché. C'est-à-dire que finalement, le Christ a pris notre nature au plus près, mais il y a finalement certaines, voilà, certaines blessures de notre nature qu'il ne pouvait pas prendre, et notamment le fait de pécher. Il est Dieu, donc il ne peut pas pécher. Il ne peut pas avoir la foi non plus, contrairement à ce que beaucoup de théologiens disent aujourd'hui. Donc le Christ n'a pas la foi, puisque le Christ... Oui, mais c'est un don de Dieu, mais c'est aussi une infirmité d'avoir la foi, parce que par rapport à la vision de Dieu, la foi c'est quand même une infirmité, puisque c'est une connaissance obscure de Dieu. Et comme il est Dieu, évidemment, il sait que Dieu existe, et il sait que Dieu est Trine, Père, Fils et Saint-Esprit, puisqu'il est le Fils. Donc s'il ne savait pas ça, il ne saurait pas qui il est. Donc comme il le sait, par définition, il n'a pas la foi. Mais voilà, certains théologiens, genre pour rapprocher le Christ encore plus de nous, et pour dire qu'il a assumé vraiment toutes nos épreuves, disent que justement, pendant sa passion, le Christ aurait dû mener le combat de la foi. Mais non, il a mené beaucoup d'autres combats, mais pas le combat de la foi.
Il n'a pas d'espérance.
Mais... Il n'a pas d'espérance.
Mais par contre, il a la charité.
On espère, oui.
Sinon,
là, ça devient compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que saint Paul dit que l'espérance et la foi et l'espérance passent dans la vie éternelle, mais que des trois, la charité qui est la plus grande, elle est la seule à demeurer. Parce que la charité, elle n'est pas liée à la vie terrestre. Puisque Dieu est charité.
Oui, Dieu est éternel.
Est-ce que ça va sur ce rapide retour? Alors, je ne sais plus exactement où on s'est arrêté, mais je suis sûr qu'il y a des bons élèves qui vont me dire « Oh, mon frère !» Donc, on reprend à « De nouveau, il s'éloigna et pria. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer, c'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus, il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Donc nous sommes cette partie qui bascule, on va dire, de la lutte spirituelle de Jésus, qui est donc avec ses apôtres, à une lutte beaucoup plus physique, puisque arrivent ceux qui l'arrêtent. Et donc viennent les épées, viennent les bâtons, donc là on rentre vraiment dans cette partie douloureuse pour le corps du Christ, que va être cette entrée dans la passion. Alors, il y a ce va-et-vient avant entre Jésus et les apôtres qu'il trouve endormis. C'est sans doute un sommeil mystérieux, parce qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'ils font à endormir alors que leur maître agonise, alors qu'ils savent quand même que c'est sans doute une soirée très particulière. L'un des commentateurs dit finalement c'est peut-être le sommeil de ceux qui ne comprennent pas et sont tellement déstabilisés qu'ils préfèrent dormir plutôt que d'essayer de comprendre, en quelque sorte. Finalement, c'est plus simple, d'une certaine manière, que de se laisser glisser dans le sommeil plutôt que de voir comme ça le maître bien-aimé qu'ils ont vu transfiguré sur le mont Tabor, qui est en train d'avoir la face contre terre, qui saigne une sueur de sang. Et donc, d'une certaine manière, on détourne le regard, qu'on se réfugie dans le sommeil pour ne pas avoir à assister à ce spectacle qui est humainement pour eux sans doute incompréhensible. Et puis, il y a cette mention de l'heure. L'heure est venue. Alors, c'est un mot qui revient souvent dans l'Évangile. Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, cette heure, c'est l'heure de Jésus. Donc, ce n'est pas une heure qu'on prend sur sa montre, mais c'est le moment. C'est vraiment le sommet de l'histoire, le moment où le Christ vient nous sauver, et c'est aussi, comme le dit Jésus, l'heure des ténèbres. Donc c'est les deux à la fois. C'est à la fois l'heure du salut et l'heure des ténèbres. Et la Bible chrétienne, justement, c'est un commentaire qui est pas mal, elle dit « Satan n'est pas expressément nommé dans l'agonie de Gethsémani, mais l'heure est trop décisive pour qu'il ne soit pas là. » S'il n'apparaît plus comme au désert, c'est qu'à son ordinaire, pour jouer sa tentation la plus redoutable, il se dissimule. Mais l'Évangile nous en a dès longtemps averti. Après sa première défaite, après donc les trois tentations au désert, Luc annonçait que le diable avait quitté Jésus jusqu'au temps marqué, donc jusqu'à son heure. Et les démons expulsés des possédés se plaignaient que cette expulsion ait lieu avant le temps. Et Jésus lui-même l'a déclaré, « Il vient le prince de ce monde, mais il va être jeté dehors, car il est déjà jugé. » De fait, le prince de ce monde vient et semble triompher en Judas, puis dans la défaillance de Pierre, et durant toute la passion, où Jésus est livré aux mains des pécheurs et à la puissance des ténèbres. Mais en réalité, le démon a déjà perdu le pouvoir qu'il avait sur Adam, dès Gethsémani, dès le jardin des Oliviers, puisque le nouvel Adam a triomphé de la tentation même qui avait réussi à l'antique serpent pour séduire le premier homme. Donc, ce parallèle que l'on peut faire évidemment entre le jardin d'Éden et le jardin des Oliviers, le démon qui vient tenter Adam qui vient le détourner finalement de la volonté de Dieu, mais si voilà, mange de cette fruit, de ce fruit qui pourtant est défendu, et là pareil, qui vient sans doute essayer de détourner le Christ dans sa volonté humaine de la volonté du Père, mais voilà, Jésus, contrairement à Adam, eh bien, se remet totalement entre les mains de son Père, et que ce que tu veux advienne. Et donc il y a un beau parallèle qu'on voit bien dans le film de Mel Gibson avec ce serpent démoniaque qui tourne autour du Christ en agonie, et que le Christ finalement écrase du talon, ce qui montre bien ce parallèle entre le serpent vainqueur du jardin d'Éden et le serpent vaincu du jardin des Oliviers, même si les démons sans doute croient à sa victoire jusqu'à la résurrection pascale, mais en fait il est déjà vaincu, même s'il ne le sait pas, parce que justement le Christ, eh bien, par amour, a totalement épousé la volonté de son Père, et à travers le mal qui se déchaîne sur lui, eh bien, fait son œuvre de salut. Arrive ensuite Judas, donc évidemment la grande duplicité de Judas saute aux yeux, il l'appelle Rabbi, il l'appelle Maître, alors que bon, il vient de le trahir. Il l'embrasse, signe par excellence de la duplicité, alors que justement c'est le signe de l'arrestation. On commence un petit combat dans lequel Saint-Pierre, même s'il n'est pas nommé ici, donc tire son épée et coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, dont d'ailleurs tout le monde se contrefiche. C'est assez incroyable d'ailleurs dans l'évangile, parce que le pauvre il avec son oreille. Par ailleurs, dans d'autres évangiles, on sait que Jésus le guérit, mais c'est vrai que là, Saint-Marc ne s'arrête pas du tout. Il prend juste cet affrontement justement pour en quelque sorte introduire la parole du Christ qui dit, mais justement, je ne suis pas un bandit et je ne suis pas un chef de bande et je ne me défendrai pas par les épées, mais vous-même, pourquoi venez-vous avec des épées et des bâtons? Et là encore, le Christ souligne leur hypocrisie, leur duplicité, puisque ils auraient pu l'arrêter chaque jour, ils ne se cachaient pas, ils enseignaient au temple, mais évidemment ils ont eu peur de la foule. Donc ils ont préféré cette arrestation nocturne. Et enfin, il y a ce jeune homme, donc adepte du nudisme, qui donc est avec son drap. Alors, comme on a dit au tout début de cette lecture de l'évangile de Saint-Marc, c'est sans doute Saint-Marc lui-même donc qui signe ainsi sa présence, à travers différents indices dans les Actes des Apôtres, on peut penser justement que le Cénacle était la maison de la famille de Saint-Marc, et donc le Christ a célébré cette première messe chez Saint-Marc, et que ce jeune homme, peut-être parce qu'il n'arrivait pas à dormir, eh bien, va sur sa terrasse, voit les apôtres qui quittent la maison, et voilà, pris d'une forme de pressentiment, d'une inspiration divine, mais suit à distance en s'étant habillé juste de son drap, mais voilà, que donc on veut le saisir et qu'il laisse le drap et s'enfuit. Parce que aussi, bon, si c'est pas Saint-Marc, on ne voit pas trop quelle est la source que pourrait avoir Saint-Marc de cet épisode, et puis ça paraît assez vraisemblable qu'il signe ainsi sa présence, même s'il y a aussi une belle interprétation spirituelle qu'on peut faire de ce passage comme étant aussi une annonce de la résurrection. Parce que il y a ce jeune homme, donc dans le jardin des Oliviers, et il y aura aussi dans un autre jardin, qui est le jardin de Pâques, le jardin du Sépulcre, eh bien, un jeune homme vêtu de blanc qui se tiendra devant le tombeau vide. Donc, bon, ce jeune homme, c'est un ange, évidemment, mais qui apparaît sous les traits d'un jeune homme. Et donc, il y a, en quelque sorte, un parallèle assez discret, mais qu'on peut voir entre ce jeune homme du jardin des Oliviers et puis ce jeune homme angélique du jardin de Pâques. Et d'autant que ce jeune homme, voilà, il sort de son drap, qui est dit en grec, je crois, ou en latin, je ne sais plus, Syndon. Et Syndon, c'est le nom du suaire, en fait, aussi, de Jésus. Et donc, ce jeune homme sort de son suaire, en quelque sorte, et il sort tout nu. Comme on peut imaginer, le Christ, eh bien, à la résurrection, sort également tout nu de son souffert, de son drap mortuaire, lui qui ressuscite. Donc voilà, cet épisode, il est sans doute historique, il est sans doute, comme je vous disais, la signature discrète de saint Marc qui avait suivi les apôtres au milieu des oliviers de Gethsémani, mais on peut y voir aussi, dans cette science de l'Esprit-Saint, qui est le premier rédacteur de l'Évangile, eh bien, une annonce déjà de la résurrection du Christ glorieux qui sort de son drap mortuaire, et puis ce jeune homme angélique qui se tiendra près du tombeau. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Oui, c'est un peu ironique, je pense. C'est un peu ironique. C'est sûr qu'il sait très bien qu'ils ne vont pas seulement s'endormir tout de suite maintenant à l'ombre des oliviers vu que la troupe arrive, mais...
Je pense à un autre épisode aussi, ouais. C'est le fait de l'œil de Tibériane, quand il y a la tempête.
Oui. Oui, alors que là, il ne devrait pas dormir, quoi. Ouais. Ouais. Oui, non, parce que là, le Christ dort, et ce serait un acte de confiance que de les laisser dormir, parce que, justement, ils auraient compris qu'il est Dieu, et que s'il dorme ou qu'il veille, de toute façon, il veille toujours sur eux, alors que là, les apôtres dorment, alors qu'on leur a demandé de veiller. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, effectivement, il y a un sommeil du Christ qui est sans doute légitime et que les apôtres devraient respecter, et ça leur permettrait de poser un vrai acte de foi en disant, mais finalement, voilà, on n'a pas besoin que le Christ soit réveillé parce qu'il est avec nous, et du moment qu'il est avec nous, on n'a rien à craindre. Alors que... ça ne peut pas marcher vraiment dans l'autre sens. Parce que le Christ ne va pas dire, bon, ben, les apôtres dorment, j'ai rien à craindre, je leur fais confiance. Parce que,
alors,
c'est plutôt...
Je sais, avec le confort des apôtres, ils disent, bon, ce sont les... Ouais,
c'est ça, exactement.
Ouais.
Il faut rien lui arriver, donc, bon.
Ben, enfin, là, il va quand même y arriver des choses.
Ouais, 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 non, mais quoi, peut-être qu'il pense aussi.
Il y a quand même une consigne de veille qui a été réitérée, qui dit va veiller, la chair est faible, etc. Et les apôtres dorment, donc manifestement, c'est pas ce qu'ils devraient faire. Hein. Après, peut-être que quand le Christ leur dit, mais voilà, maintenant vous pouvez dormir et vous reposer, ça veut peut-être dire aussi, maintenant je commence ma marche vers la croix et la résurrection, donc soyez dans la paix parce que vous êtes sauvés. Ça peut être aussi compris comme ça. Mais je pense que c'est aussi un peu ironique. Hein. Ceux qui vont l'abandonner en famille.
Ça montre pas aussi l'attente aussi de la venue du Christ pour les hommes futurs, dans veiller.
Ben, justement, dans le discours devant les murs de Jérusalem, justement, un des thèmes clés, c'était justement la vigilance. Quoi. Et là, bon, là, justement, si le Christ dit « vous pouvez dormir », c'est pour ça que c'est peut-être un peu ironique, même si on peut penser qu'il y a peut-être un sens plus positif qui est de dire ben, « voilà, soyez en paix, parce que je vais vous sauver ». Je pense qu'on peut voir ça les deux côtés. Hein. Ouais. Je pense qu'on est plus pessimiste ou plus optimiste. Si on aime l'ironie ou si on est allergique au second degré. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Le chemin qui s'indiquait du jardin des Oliviers jusqu'au palais de Caïphe, à moins qu'il y ait un premier interrogatoire dans la maison d'Anne, qui était le beau-père de Caïs. Bon, ça s'est un peu disputé. Voilà, savoir où cette première entrevue entre Jésus et le grand prêtre a lieu. Peut-être qu'il y a d'abord une entrevue un peu informelle dans la maison d'Anne en pleine nuit, parce que bon, en pleine nuit, généralement, on ne convoque pas le Sanhédrin, on ne convoque pas le tribunal, et ensuite un jugement un peu plus en bonnet du forme au petit matin, puisque Saint-Luc, effectivement, signale un jugement juif, un procès juif au petit matin. Bon, c'est pas essentiel, mais voilà, en tout cas, il y a cette entrevue entre Jésus et, comme dit Saint-Marc, les grands prêtres. Alors, normalement, il n'y en a qu'un, un grand prêtre, mais, comme je vous dis, il y a Caïphe, qui est le grand prêtre en fonction, mais il y a aussi Anne, son beau-père, qui gardait une grande influence et un grand prestige, et même s'il n'était plus grand prêtre en titre, il restait quand même un peu une autorité, un grand prêtre émérite.
La nuit, le jour ou la nuit, enfin deux fois, enfin, il y a vraiment l'article de fois parce que
c'était trop, c'est rien de mieux. Donc, en tout cas, voilà, soit, effectivement, peut-être, je pense, si on veut coller au plus proche, il y a sans doute cette entrevue un peu plus informelle, et ensuite, donc cette entrevue informelle qui est une forme d'interrogatoire, qui est une manière de rassembler des témoignages contre le Christ, de fournir en quelque sorte le dossier d'accusation, au petit matin un jugement plus formel, et de toute manière il faut aller devant Pilate, puisque les Juifs n'ont plus droit de vie et de mort, donc l'important c'est justement de mettre beaucoup de pièces dans ce dossier d'accusation pour qu'ensuite eh bien, on emporte l'approbation de Pilate. Alors évidemment c'est très bouleversant aussi, parce que c'est le grand prêtre face au grand prêtre. Puisque le grand prêtre, par excellence, c'est le Christ. C'est, comme dira justement Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, voilà, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc il y a une espèce de face-à-face là qui est assez inouïe, qui est assez unique dans l'histoire du grand prêtre de l'Ancien Testament, du sacerdoce qui va se terminer, donc Caïphe, qui fait face au grand prêtre du sacerdoce éternel du Nouveau Testament, de la première messe qui vient d'être célébrée. Et Pierre, donc, qui suit à distance. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous ?» Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Nous sommes soit dans la maison d'Anne, soit dans le palais de Caïphe. Jésus est tout seul. Les apôtres l'ont abandonné. Pierre est dans la cour. Il n'est pas dans la maison, il est près du feu. Donc Jésus est tout seul face aux autorités d'Israël. Donc Saint-Marc nous dit, hein, les grands prêtres, les anciens, les scribes, donc les trois catégories qui appartiennent, qui forment le Sanhédrin. Alors sans doute qu'on n'a pas convoqué les membres du Sanhédrin qui auraient été favorables à Jésus, qu'on a été chercher uniquement ceux qui depuis longtemps étaient hostiles au Christ, et donc il faut vient se rendre compte de cette atmosphère très pesante, cette atmosphère d'hostilité, et en même temps, voilà, c'est un petit peu comme les loups sentant le sang de la victime, quoi. Il y a une forme d'excitation. Enfin, on le tient, il est en notre pouvoir, il est seul, et nous allons pouvoir en faire ce que nous voulons. Donc des faux témoins, sans doute payés, convoqués pour l'occasion, viennent, mais, comme je vous disais, le but c'est quand même de fournir un dossier à Ponce Pilate qui tienne à peu près la route, donc ce serait bon que les témoignages soient très concordants, et ils ne le sont pas. Saint-Marc ne cite qu'un de ces faux témoignages. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Alors ce témoignage, il est faux, déjà parce que le Christ n'a jamais dit que c'est lui qui détruirait le temple. Il a dit effectivement, devant les murailles de Jérusalem, en voyant le temple magnifique et les disciples s'émerveillant devant ces belles constructions, ces belles pierres, il a dit « tout sera détruit ». Il n'a jamais dit « je le détruirai ». Non, c'est pas lui qui détruira. Donc c'est pas lui qui a détruit. Donc effectivement, le témoignage est faux déjà d'attribuer comme ça au Christ la destruction du temple. Et puis, la différence, ce sanctuaire fait de main d'homme et j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme, dans ce témoignage, on sent percer une critique. C'est-à-dire les faux témoins sous-entendent que Jésus reprocherait au temple de Jérusalem d'être fait de main d'homme, qui lui reprocherait d'être donc d'une origine matérielle, bassement humaine. Alors que le Christ n'a jamais dit ça. Le Christ est allé prier au temple, il a fait les pèlerinages comme tout juif pieux devait les faire. Donc, voilà, d'une certaine manière, les faux témoins essayent d'induire que le Christ aurait été finalement rebelle au temple, maîtrisant à la garde du temple, ce qui n'a pas été. Et puis, il y a cette dernière partie, effectivement, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Bon, bien, si on pense à un temple de pierre, trois jours, c'est un peu court. Hein. Le temple d'Hérode, il a fallu 40 ans pour le construire. Donc, tous ces témoignages, voilà, partent de quelque chose qui est une base à peu près vraie, qui est la prophétie de Jésus annonçant la destruction du temple, mais ensuite, c'est remodelé pour finalement... voilà, être mis à charge de Jésus. Et en filigrane, il y a toujours un épisode qui est resté en travers de la gorge des ennemis du Christ, qui est lorsqu'il a chassé les marchands du temple, et surtout qu'il a expliqué son geste en disant « Cette maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de brigands. » Et c'est évidemment ça qui était un petit peu en filigrane et qui est resté en travers de la gorge de tous ses ennemis. Et donc, il y a cette question quand même, voilà, des rapports entre Jésus et le temple, qui sans doute trottent dans la tête du Sanhédrin, mais ils n'arrivent pas à établir des témoignages concordants qui montreraient que le Christ a vraiment manqué de respect au temple. Puisque quand il chasse les marchands du temple et qu'il demande à ce que le temple soit une maison de prière, difficilement dire qu'il a manqué de respect au temple. Donc eux, ce qui les intéresserait, c'est plutôt le contraire, qu'il soit une parole scandaleuse, offensante, insultante contre ce temple, ouais, qui est à la fois le haut lieu religieux, évidemment, d'Israël, mais aussi le centre de tout le peuple d'Israël. Ouais. C'est ce qui fait l'unité du peuple d'Israël.
La colère de Sanhédrin, c'est aussi le fait que les marchands du temple, il était taxé justement par les frères pour ne pas récupérer de l'argent pour les marchands du temple.
Ah, c'est très ça, non ?
Il y avait un effet connu, c'est pas possible.
Oui, oui, mais.
En fait, ça devait leur rester un petit porteur d'agrandissement.
Mais disons que ouais, comme on avait dit, c'est le Christ ne critique pas en tant que tel le fait qu'il y ait des animaux qui soient vendus et achetés, parce que c'était indispensable au sacrifice et donc au rituel de l'ancienne loi. Mais ce qu'il critique, c'est que la dévotion soit uniquement extérieure. On avait dit, donc caverne de brigands, c'est pas tellement les brigands cupides et attachés à l'argent, c'est surtout le brigand en tant que homme sans parole, enfin, un homme qui n'a pas de parole, et qui a prêt à dire tout et son contraire selon ses intérêts. Et donc quand il dit caverne de brigands, c'est justement pour critiquer le peuple d'Israël qui, quand il est dans le temple, eh bien, honore Dieu extérieurement par les sacrifices, puis dès qu'il est en dehors du temple, pêche, se détourne de Dieu, se détourne de sa loi, etc. C'est en ce sens-là. Et donc, le grand prêtre reste beaucoup sur sa faim, puisque donc ses témoignages ne sont pas concordants, et donc il se dit, bah, allons demander au Christ l'interprétation de tout cela, et peut-être que le Christ, en interprétant cette prophétie sur le temple de Jérusalem, sur sa destruction, peut-être aussi en réinterprétant ce geste d'avoir purifié le temple de ses vendeurs, nous fournira matière à accusation. Et ce qui est très intéressant, et enfin, trop tardé après, c'est que, en fait, l'identité du Christ, ça ne l'intéresse pas, en fait. C'est-à-dire que il ne demande pas de prime abord qui es-tu. Ça, c'est intéressant. Il va le demander en deuxième, quand vraiment il aura été poussé à bout par le silence de Jésus. Et c'est intéressant justement de voir comment la question clé quand même du Christ à ses apôtres, c'est pour vous qui suis-je. Donc finalement toute la question c'est qui est Jésus pour nous. Et l'évangile qui commence par évangile de Jésus Christ, fils de Dieu, c'est le premier verset, répond à cette question. Et braque, je dirais, voilà, notre regard sur qui est Jésus. Et donc, il y a en quelque sorte, finalement, deux grandes catégories dans l'humanité. Il y a ceux qui s'intéressent à qui est Jésus, et puis ceux qui n'en ont rien à faire. Et manifestement, Caïphe fait partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que c'est pas tellement qui est Jésus qui intéresse. Et pourtant, ça fait quand même 3 ans qu'il s'affronte avec les pharisiens et avec les prêtres. Ça fait 3 ans qu'on se pose la question, qu'il fait des actes que personne n'a jamais fait, qu'il dit des paroles que personne n'a jamais dites. Donc on pourrait se demander, mais qui est-ce ? Et là, il l'a devant lui, et c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de lui tirer une parole qui permette de l'accuser. Et finalement, bah, Jésus, faisant silence sur ses paroles concernant le temple, il va remonter plus haut. Puisque tu dis que tu as autorité sur le temple, notamment lorsqu'il a chassé les marchands, celui qui a autorité sur le temple, c'est le Messie. Et donc, es-tu le Messie ? Mais ça ne vient pas en premier, ça vient seulement en deuxième. Je vous cite une prophétie de Zacharie. Donc, on trouve en Zacharie 6, 12. Donc, c'est Dieu qui parle. Puis, tu lui parleras pour dire ceci. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Car de lui, quelque chose va germer, car il reconstruira le temple du Seigneur. Et effectivement, cette parole de Zacharie a été comprise par les Juifs du temps de Jésus comme le Messie viendra et il établira un nouveau culte et il reconstruira en quelque sorte un nouveau temple, un temple spirituel pour un culte spirituel. Et donc, on voit bien comment dans l'esprit du grand prêtre qui connaît cette prophétie de Zacharie, qui connaît la mission du Messie, eh bien, comment on passe de la question du temple à la question du Messie. Tu dis que tu vas détruire le temple et en reconstruire un autre, ou si tu ne l'as pas dit, en tout cas, les faux témoins le disent. Mais donc, si tu dis ça, c'est que tu es le Messie. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, il va lui demander, es-tu le Christ, le Fils du béni ? Et nous arrêtons là, puisqu'il est là. Tu sens ?
Oui.
Et la réponse, c'est « Je le suis ». Ouais, je le suis. C'est dans Saint-Luc, Jésus répond effectivement « Tu l'as dit, je le suis ». Mais là, c'est plus explicite parce qu'il dit « Je le suis ». Et comme dit Benoît XVI, on peut entendre dans ce « Je le suis » l'écho de la parole de Yahvé qui dit à Moïse « Je suis ». Surtout que juste après, Jésus va dire justement qu'il il viendra sur les nuées du ciel, qui est par excellence l'attribut de Dieu. Donc il va répondre non seulement qu'il est le Messie, mais qu'il est fils de Dieu. Ce qui évidemment le condamne à mort. Est-ce que vous avez des questions avant que nous montions prier? On en est à 61. Pas de questions. Eh bien, donc nous nous revoyons le 6 février. C'est ça, non? En 15 jours. Et donc nous continuerons ce face-à-face entre le Christ et le grand prêtre. Nous verrons le reniement de Saint-Pierre. Et peut-être que nous pousserons jusqu'au procès devant Pilate. Donc le 6 février et le 20 février. Donc au mois de février, il y aura deux écoles de prière. Non. Mais en mars, il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Mais comme ça, on arrivera gentiment sur le début du carême avec la Passion. Et puis, j'espère que ce sera la résurrection au moment de Pâques. Nous pouvons monter.